Aujourd'hui, nous sommes à Villers-lès-Cagnicourt pour la seconde partie consacrée à l'industrie de la betterave sucrière dans l'Artois. Après Corbehem, la communauté de communes aux artistes Marquion propose cette balade découverte avec Max Méplot du service tourisme qui nous fait découvrir ce village et ses alentours. Et commençons cette seconde partie avec un passage dans le cimetière du village.
Pour celles et ceux qui étaient avec moi à Corbehem, vous vous rappelez de la sépulture de la famille Langlais à Corbehem, qui fait l'objet d'une reprise par la commune. Là aussi, c'est des dossiers quand même qui sont lourds, parce comment destiner la sépulture. Ici, c'est le cas. Ici, on a la famille Crépin-Tranin et du temple Crépin. Vous n'avez plus de descendants sur... ça reste une propriété privée, une sépulture privée. Vous n'avez plus de descendants sur Villers-lès-Cagnicourt. Donc la sépulture, en passant, n'hésitez pas à jeter un œil à l'intérieur. C'est catastrophique. Par contre, on ne peut pas agir comme ça sans l'autorisation des propriétaires. Donc celle-là, je pense que d'ici quelques temps, elle va aussi faire l'objet d'une procédure de reprise. Je ne sais pas pour dans combien d'années, mais ça va être la même destination que la sépulture Langlais à Corbehem. C'est dommage parce qu'on voit, vu la qualité de la pierre, on voit que ça a été des familles puissantes, très certainement au 19e siècle et début du 20e siècle. Puis après, faute de descendants, ben, forcément les sépultures sont plus entretenues. Pourtant, celle-ci, on la repère de loin. Hein, quand on est sur la nationale, on voit de loin le cimetière de Villers. Alors à Villers, dans le cimetière, vous avez des anciennes tombes. Vous avez aussi deux soldats anglais qui sont enterrés, mais là, qui sont tombés en 40, le 24 mai 40. Puisque ici, cet axe-là, il était convoité. Vous aviez les panzers de Rommel qui étaient bloqués à Marquion, enfin le long du canal du Nord, et qui cherchaient à passer. Une fois, alors ici vous aviez les troupes anglaises qui défendaient le secteur. Une fois qu'ils sont passés, forcément ça a fait des victimes pour arriver à la bataille d'Arras en fin mai 40. Deux soldats qui étaient ici, qui sont tombés dans les premiers. Voilà. Voilà pour le cimetière. Le cimetière était sur notre parcours, donc il fallait absolument s'y arrêter. Et puis on va reprendre notre périple. Alors, les tombes du Commonwealth, enfin les tombes des soldats anglais, à une époque, je pense qu'ils étaient situés, mis en évidence dans le cimetière. Il n'y avait pas forcément cette allée-ci. Maintenant, ça a été... elles sont là. Elles sont ici.
Cette balade découverte des artistes Marquion à Villers-lès-Cagnicourt est l'occasion de découvrir l'industrie de la betterave sucrière qui a animé le village autrefois. Et justement, Max Méplot du service tourisme nous montre une deuxième râperie, l'endroit où les betteraves étaient transformées en jus.
L'air, on peut pas tellement se perdre. Mais... Alors ici, on est dans l'autre râperie, hein, plus ancienne. Ça a été une râperie dès l'origine. Hein. La sucrerie générale de Cambrai avait misé sur un réseau de râperies. Donc celle-là, ça a toujours été une râperie. Ça n'a pas été une ancienne sucrerie réhabilitée en râperie. Dès l'origine, râperie ici. Alors ici, vous aviez un réseau, mais avec des tubes beaucoup plus gros qui s'en allaient là sur Écho d'Œuvre. Au-dessus de Cambrai. Je vous ai dit que pendant la haute saison, donc en fin d'année, hein, d'octobre à décembre, janvier, voire février parfois, vous aviez un apport de main-d'œuvre. Il fallait absolument trouver de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre locale n'était pas toujours disponible. D'autant qu'un village comme Villers, au 19e siècle, on a plus de 400 habitants à Villers. Aujourd'hui, vous en avez 257. Avec plus de 400 habitants, vous comprenez pourquoi, par exemple, la famille d'Avennes a pu ouvrir une sucrerie là-bas, d'où on vient. Parce qu'il y avait assez de main-d'œuvre locale pour employer tout le monde. Au 20e siècle, surtout après la Première Guerre mondiale, c'est plus le cas. Déjà, la population de Villers se réduit. Donc, il faut un apport de main-d'œuvre d'autres pays, notamment le pays le plus proche, ce sont les Belges. Les Belges qui vont venir travailler ici à la râperie. Nous, dans le nord de la France, on a pas mal de coulonneux, mais en Belgique, vous en avez encore plus. Donc, parfois, ils viennent travailler avec leurs pigeons. Donc, on va leur construire ici la sucrerie des Codeuvres de Cambrai. On va leur construire un logement pour pouvoir les héberger pendant la saison. C'est le logement qui est derrière moi. Et en haut, vous pourrez voir un pigeonnier. Ces logements-là, alors quand vous retrouvez avec une friche industrielle avec ce genre de bâtiment, c'est pas gênant. Vous allez avoir des particuliers qui vont pouvoir racheter et s'y installer, s'il n'y a pas de souci. Un bâtiment de cette ampleur, celui qu'on a visité précédemment, c'est beaucoup plus difficile, même si on peut faire des très beaux lofts à l'intérieur, c'est un apport financier considérable. Il faut réhabiliter tout ça, il n'y a plus rien de norme, mis à part le gros œuvre. Donc c'est quand même compliqué. On repère ici le bâtiment industriel avec toujours ses grandes fenêtres pour un apport de lumière conséquent à l'intérieur. Tout à l'heure où on était, tout a été recouvert de macadam. Ici, c'est pas le cas, il y a des petits cailloux, mais puis les pavés ont parfois sauté. Par contre, ici, vous en avez encore beaucoup, beaucoup de pavés. Ça fait encore une belle cour, un ensemble, comme on peut l'admirer au cours du XXe siècle. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais la râperie qu'on a visitée près de la Nationale va fermer. La dernière campagne betteravière, ça va être 67-68. Janvier 68, c'est tout. On met la clé sous la porte et la râperie va fermer définitivement. Ici, on n'a pas la date exacte. J'ai rendez-vous avec un ancien de Villers qui pourra peut-être me l'apprendre dans les semaines qui viennent. Mais ici, on sait que dans les années 50, ça fonctionnait encore. Par contre, on n'utilise plus forcément la tuyauterie pour envoyer le jus de betterave. À partir des années 50, on change de mode de transport. C'est celui que vous connaissez actuellement. À partir des années 50, vous avez énormément de poids lourds qui peuvent transporter les betteraves. Et la campagne betteravière se fera surtout en camion à partir de la fin des années 50.
Les entreprises de la betterave sucrière dans l'Artois ont utilisé la voie de 60, un petit train qui a eu de multiples services. Max Méplot, du service tourisme d'Osartis Marquion, nous en parle.
1957, les derniers petits trains, dont l'atelier situé à Vis-en-Artois, vont fermer aussi. La voie de 60 se sera terminée. On met la clé sous la porte en 1957. Pourquoi ? Parce qu'il y a une double raison. C'est vrai que le transport routier s'intensifie et vous avez aussi la construction de l'autoroute A1. L'autoroute A1 va couper les réseaux de voies ferrées, si bien que c'est plus intéressant pour les sucriers de s'en débarrasser définitivement plutôt que d'essayer de composer avec les constructeurs de l'autoroute pour faire passer les petits trains au-dessus, en dessous, ça c'est compliqué. En plus, le petit train à vapeur, jusqu'aux années 53, il était encore en fonction, donc c'était rigolo parce que dans la campagne, vous aviez encore le teuf-teuf du petit train, la sirène, enfin le sifflet, exactement, le sifflet du petit train, ce qui rythmait parfois un peu les journées dans la campagne. Mais à partir de 53, c'est tout, il est complètement obsolète le petit train, c'est toujours les mêmes locaux qu'en 14, hein. c'est souvent du matériel anglais qui a été reconverti, donc c'est des locomotives Baldwin ou Alco, c'est du matériel anglais ou américain. Il est complètement obsolète. À Vis, ils vont faire quand même, les mécaniciens sont d'excellents mécaniciens, ils vont transformer trois locomotives en locotracteurs diesel qui vont pouvoir perdurer jusqu'aux années 57. On va gagner, grâce à leur talent, on va pouvoir gagner 4 ans de transport de betteraves par voie ferrée. mais en 57 c'est terminé. À Écourt, il y avait un dépôt de betteraves également qui était au stade. Lui, il ferme en 54, 3 ans avant. Le personnel, qu'est-ce qu'il devient ? Bah ici, quand ça va fermer dans les années 50, le personnel il va être rapatrié à la sucrerie des Côtes-d'Œuvre. Tandis que les ouvriers, les salariés qui sont là-bas dans la râperie près de la Nationale, eux, c'est l'entreprise Béguin. Et Béguin va rapatrier son personnel plus sur Corbehem, où il y a beaucoup plus de travail pour tout le monde. Donc Quéan va fermer également, l'écluse va fermer et le personnel va être rapatrié sur Béguin. Vissant-Artois, la voie ferrée, la voie de 60, la société va être dissoute. Les salariés auront le choix. Beaucoup iront à la cimenterie de Biache, parce que c'est pas très loin de Viss. Mais d'autres iront travailler directement à Corbehem, chez Béguin. Les petits trains, malheureusement, tout a été ferraillé. On arrive quand même à se repérer un peu dans le réseau, mais il faut maintenant beaucoup d'imagination. Par contre, vous en croisez parfois... Quand vous accompagnez les enfants ou les petits-enfants, une sortie à Péridaïsa en Belgique. Moi, quand j'y vais avec les enfants, en fait, ils peuvent m'installer devant le petit train. Je vais passer là ma journée, ça me suffit. Les animaux, c'est bien. Mais je vais surtout être intéressé par leur magnifique locomotive Koppel du matériel allemand qui est sur voie de 60, qui est magnifique. Ils ont su la préserver. Par contre, si vous avez la voiture, n'hésitez pas. Il y a un réseau des alentours d'Arras, qui reliait Arras à la Somme, qui a été préservé. C'est ce qu'on appelle le petit train de la Haute-Somme. Attention, ne pas confondre avec le train de la baie de Somme, qui lui est en voie métrique. Là, c'est le petit train de la Haute-Somme, c'est-à-dire qu'ici, vous prenez Bapaume, vous descendez à Albert, et en dessous d'Albert, vous prenez un peu sur la gauche, et là, vous allez arriver dans des communes comme Froissy, Dompierre, Capy. Et là, vous avez le réseau encore en voie de 60, avec certaines locomotives d'ici qui sont parties là-bas. Les derniers locaux diesel qui étaient encore utilisés en voie de 60 pour la cimenterie de Quentin sont partis là-bas. Donc vous pouvez encore les voir. C'est une association de bénévoles qui s'en occupe, c'est magnifique. Ils organisent une fête de la vapeur, je crois que c'est au mois de septembre. Mais pendant les vacances d'été, n'hésitez pas à aller là-bas. Vous êtes complètement ailleurs, vous allez faire un petit trajet en voie de 60 pour vous rendre compte un petit peu de ce que c'était que le petit train qui transportait les betteraves. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas ferraillé leur ligne tout de suite. Ils ont été plus tardifs et il y a eu la chance, dans les années 80, il y a une association qui s'est occupée de préserver le matériel. Ça, c'est du bonheur. C'est de la sauvegarde de patrimoine.
Son et lumière, là.
Oui, avec toute l'histoire.
Et il montait un anneau en voie de 60 avec, alors je ne sais pas d'où ça venait, de la Somme peut-être.
Alors, l'avantage de la voie de 60, c'est que les lignes qui alimentaient le front, elles n'étaient pas toujours fixes, puisque le front avançait, reculait. Heureusement, c'est que toutes les armées avant-guerre, nous on avait été les premiers, les Français, c'est une invention française, c'est Paul de Coville, fin 19e siècle, qui propose le petit train en voie de 60 cm. Et son invention va intéresser très vite les militaires. Si vous allez visiter les lignes Maginot, la ligne Maginot qui devait nous défendre en 40, c'est de la voie de 60 dedans. Donc très vite, l'armée française va acheter les locomotives, les wagons, pour alimenter le front. Les Anglais vont suivre, vont dire « votre petit train, il est franchement super, on va nous aussi produire des rails de cette dimension-là ». Et les Allemands, eux, cherchaient, ils travaillaient sur du 70 cm. Mais dès qu'ils ont senti le conflit venir avec la France, ils ont changé, ils ont abandonné 70 cm, ils les ont rapprochés de 10 cm, ça leur a fait des rails de 60. Et ce qui est formidable, c'est que quand on prenait une colline, par exemple comme Lorette, etc., qui coûtait des vies, on arrivait sur du matériel allemand qui était réutilisable tout de suite, puisque tout était standard en fait. Les Alliés, les Français comme les Allemands utilisaient la même dimension de rail. Et c'est la seule chose qui nous est restée, enfin, de positif entre guillemets, parce qu'on a su le réutiliser après-guerre sans le petit train. Je dis pas qu'on serait encore en train de reconstruire, mais ça nous a terriblement aidé.
toujours à Villers-lès-Cagnicourt pour une balade découverte de deux artistes marquants, Max Méplot nous parle à présent des bâtiments reconstruits après-guerre.
Parfois, dans la hâte, il fallait reconstruire. Ici à Villers, on en a un bel exemple avec la chapelle Notre-Dame. Vous avez deux chapelles à Villers qui restent. La chapelle, mais c'est une sépulture privée dans le cimetière qu'on a été voir. Vous en avez une autre plus loin, on va s'y arrêter. Quand vous passez en voiture, il faut le savoir que c'est une chapelle. Il y a juste la croix extérieure. C'est une chapelle privée qui n'a jamais fait l'objet de beaucoup de restaurations depuis 1920. Par contre, il y a toujours des miracles. Vous pouvez avoir des villages qui sont complètement rasés et puis des propriétés qui n'ont pas été touchées. C'est le cas de la ferme qu'on va aller voir maintenant, qui est l'une des plus anciennes fermes de Villers. Le corps de bâtiment est encore en pierre blanche. Ça, c'est très rare. Ici, nous, on est complètement en brique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on est habitués à la brique. Quand vous allez au-dessus d'Arras, vers Beaumet-les-Loges, tout ça, déjà, vous êtes dans ce qu'on appelle l'Artois blanc, en pierre blanche. Mais nous, ici, malheureusement, on va ici 3 km. En fait, la râperie, dans les années 14-18, elle est plus en fonction de râperie. Elle sert simplement de camp de prisonniers. Elle sert simplement de camp de prisonniers. Ici, on est dans les lignes allemandes, donc c'est des prisonniers anglais et français qui travaillent dans les champs Ils sont en train d'aménager la ligne de front. Les conditions sont vraiment lamentables. C'est des militaires, donc on peut pas. C'est pas des populations civiles qui sont déportées là, mais les conditions, on est déjà proche des camps de travail qu'on va connaître en Allemagne dans les années 40. Alors on est toujours étonné par le réseau souterrain de tubes. On a du mal à s'imaginer 25 km de tubes. Et vous en avez encore beaucoup de présents dans les champs ou au bord de route. Parmi vous, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fait leur jeunesse ici dans les années 70, fin des années 60, ici dans le canton? Bon. Ici derrière, vous aviez la première boîte de nuit, bien avant le Space, par exemple, qu'on a connu à Bourlon. Ici derrière, vous aviez le Slag. Ça ne vous parle pas? Le Slag, première boîte de nuit en zone rurale. Voilà, je voulais simplement le préciser, parce que c'était dans des anciens bâtiments de la râperie. Sinon, vous avez passé devant sans même la revoir.
Ah oui.
Parce que je l'ai cherché pendant longtemps dans Villers. Avant-guerre, au début du XXe siècle, on a des belles cartes postales de la chapelle Notre-Dame de Villers. Le problème, c'est qu'elle a énormément souffert lors des combats de 14-18. Alors, vous avez la partie droite qui est restée. Vous voyez à peu près ce qui restait en 1918. Quand ils ont reconstruit, je pense que la famille qui est propriétaire de la chapelle n'a pas. Enfin, c'était pas son souci premier, puis ils n'avaient pas forcément les finances nécessaires. Donc ça a été reconstruit, mais sans grand souci de l'architecture antérieure. Donc c'est vraiment une restauration de chapelle. Dans l'urgence, et c'est pas extraordinaire, si bien que quand on passe dans la rue, si vous allez chercher des frites juste à côté, ben, il faut savoir que c'était la chapelle.
Il n'y a plus rien dedans?
Ben, je ne sais pas, on peut pas y accéder. Ouais. Il faudrait que je demande à Monsieur Legros, mais je ne sais pas si elle est entretenue. Aucun accès, quoi. On met même pas une vitre. C'est dommage. Ouais. Alors, par contre, à côté de ça, vous voyez, les obus sont passés ici. À côté de ça, on va avoir des bâtiments qui vont être bien conservés. En fait, ça dépend de là où ça va tomber. Donc, on va faire quelques mètres et on va se rendre devant l'une des plus anciennes fermes, si ce n'est la plus ancienne ferme de Villers. Donc ici, une très ancienne ferme, la date est marquée sur la clé de voûte du porche, hein. On a la date 1706. Donc c'était ça en fait, au 19e siècle, Villers, même 18e, des grandes fermes, des grandes propriétés. Pas un village très, très dense comme on l'a vu, mais des très belles propriétés, des très grosses fermes disposant de plusieurs hectares de terre. Donc ici, on a le bâtiment à l'arrière qui est encore, lui, en pierre blanche. Hein, ce qui est rare ici dans notre coin d'Artois, c'est beaucoup de briques reconstruites après la Première Guerre. Mais déjà au 19e siècle, il y avait déjà beaucoup de briques quand même par ici. Donc c'est pareil, quand la porte est fermée, on passe devant. Là, on a la chance que le portail soit ouvert. Hein. Très très belle propriété.
Oui, et puis même un alignement pour faire la porte d'entrée.
Alors, monsieur Turpin, vous pouvez réclamer peut-être vos droits, puisque le propriétaire s'appelle également monsieur Turpin, et qui a été maire de la commune aussi avant monsieur Legros. Hein? Voilà. C'est un très très beau bâtiment. Alors, même s'il n'y a pas de passage clouté, vu la circulation, on va quand même s'aventurer pour traverser la route. Et on va rejoindre tout doucement la salle des fêtes. La cour pavée hein, est encore d'origine aussi.
Les Canicours, une plaque à la mémoire du soldat Rayfield est visible sur le clocher de l'église. Il s'agit d'actes de bravoure durant la Première Guerre mondiale qui valurent aux soldats d'être décorés de la Victoria Cross. Max Méplot du service tourisme d'Eusartis-Marquion parle de ce fait historique à Villers-les-Canicours.
Là, comme il nous reste quelques minutes, on peut s'attarder un petit peu ici. Ce sont les plaques commémorant les actions héroïques des quatre titulaires de la Victoria Cross. En tout, ils sont sept, mais ici à Villers, donc ils étaient quatre, hein, où ils se sont illustrés par leurs actes héroïques. Donc vous avez Rayfield, Metcalf, Peck et le sergent Knight. Alors vous avez son récit, sergent Knight, vous avez son récit. Par contre, quand vous allez plus dans le détail, il a fait preuve d'un courage extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ici, vous aviez la ligne de front qui s'éternisait. Et en 1918, il fallait absolument quand même passer à l'action. Donc, les Alliés vont surtout miser sur les Canadiens. Ici, dans notre secteur, ça va être les troupes canadiennes qui vont être chargées d'enfoncer les lignes allemandes, qui sont extrêmement bien protégées. Par exemple, si on prend le sergent Knight, ici, vous avez succinctement son parcours. Dans les faits, comment ça s'est passé ? Dans les faits, on est le 1er septembre 1918, et il se retrouve avec ses hommes, lui, plus gradé quand même, Knight. Ils sont face au front, ils essayent d'avancer, il y a une mitrailleuse au loin qui n'arrête pas de décimer ses hommes. Ils vont courir jusqu'à la mitrailleuse. Arrivé là-bas, il n'y a plus de munitions dans le fusil. Il va tuer les opérants à la baïonnette. Ce qui est, en fait, la baïonnette, quand on est du 14-18, elle n'est pas si utilisée que ça. C'est quand même une arme blanche assez barbare. Il faut être vraiment au corps à corps. Vous allez avoir beaucoup plus de morts par balle ou par explosion d'obus que par baïonnette. Là, c'est le cas. Il va donc s'approcher et il va tuer les mitrailleurs. Du coup, il voit tout un groupe de soldats qui s'enfuient. Ils sont apostrophés par son acte, donc ils s'enfuient. Il ramasse une mitrailleuse légère et il tire sur eux. Donc il en décime aussi quelques-uns comme ça. Il va les poursuivre. Et ensuite, les officiers il va voir qu'ils descendent dans une tranchée, ils vont se réfugier dans une tranchée. Sur lui, il n'a plus que son pistolet. Il les suit dans la tranchée et là, il les tue au pistolet. Donc ça fait trois sortes d'armes. Il a commencé à l'arme blanche, mitrailleuse, pistolet. Et du coup, les autres se rendent et il arrivera à faire, pratiquement à lui seul, 20 prisonniers. Donc c'est pour ça, quand on a sa plaque comme ça sur un mur d'église, c'est pas simplement pour un petit acte de bravoure, hein, c'est quand même des actes énormes. Si vous remontez sur Vis, vous verrez l'histoire du soldat Nunez, aussi qui est mis à l'honneur à Vis, qui est là aussi, avec les actes héroïques dont il s'est rendu l'auteur. C'est quand même impressionnant, quoi. En fait, dès qu'on met le nez dans les livres et qu'on lit un petit peu ce qu'ils ont fait pour atteindre la Victoria Cross, c'est exceptionnel. Et grâce à eux, ben, Villers, Écourt, c'est pareil, Écourt Saint-Quentin, les autres communes, ça y est, le front est enfoncé. Et là, la ligne Hindenburg, elle ne tient plus. Et là, les troupes allemandes vont refouler vers l'Allemagne. Alors, pas tous, mais il y en a qui sont morts de leurs blessures quelques jours plus tard. Je parlais de Nunez, c'est pareil. Nunez, il meurt pas tout de suite à Vis-en-Artois. Il va mourir de ses blessures à l'arrière des lignes. Ouais. Ils n'ont pas tous laissé leur vie, mais bon... En plus, ici, c'était une commune importante, parce qu'on ne se l'imagine plus, mais les Allemands avaient construit un aérodrome ici, à Villers-les-Canicourt. Vous aviez un aérodrome de chasse. La 26e Jagdstaffel, la Jasta 26, elle était ici stationnée. Dedans, vous aviez un pilote exceptionnel qui était Otto Fruner. Otto Fruner, il faisait pas mal de victimes dans les avions alliés ici, dans le ciel de Villers et alentour. Et Otto Fruner, il s'est rendu célèbre parce que ça a été le premier aviateur dans toute l'histoire de l'aviation à sauter de son appareil avec un parachute. Pas oublier que 1914 jusqu'à 1916, même 1917, les pilotes prenaient leur envol, mais ils n'avaient pas de parachute. Quand ils étaient touchés, ils se crachaient avec leur avion. Vous n'aviez pas de possibilité de sauter. Là, Otto Fruner, lui, est un des premiers à expérimenter le parachute, et il était stationné ici à Villers-les-Canicourt. Ensuite, une fois que Villers va être libéré, il va y avoir quelques escadrons alliés qui vont stationner. Et après 18, c'est fini, l'aérodrome va disparaître. Il ne faut pas oublier que c'était des petits aérodromes. Les avions de chasse de la première guerre seraient aujourd'hui classés en ULM. Ils n'allaient pas vite, mais ils se battaient déjà, hein, puisque l'homme, dès qu'il y a une invention, il arrive toujours à détourner pour une utilisation militaire. L'aviation s'est extrêmement développée par la suite, hein. Et les avions de 40 n'avaient plus rien à voir avec ceux de 14-18. Voilà, sauf les Anglais, qui étaient extrêmement conservateurs et qui, en 40, avaient encore des jolis biplans. Mais c'est une autre histoire. Voilà, on va se diriger maintenant jusqu'à la salle des fêtes, où normalement, on doit nous attendre pour un pot de l'amitié. Vous avez parcouru un peu plus de 4 km. On doit être à 4,5 km. Voilà, petite randonnée. Mais il y avait beaucoup à dire sur les râperies. Voilà. Donc on va essayer de rejoindre Monsieur Le Gros s'il est sorti par lui.
C'était la seconde partie de la balade découverte d'Osartis Marquion à Villers-les-Canicourt, entre Arras et Cambrai. Notre guide était Max Méplot du service tourisme. Prise de son et réalisation de Jérôme Bailly du Radio Scarpe Sensée.